Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Rencontre avec la mauvaise joueuse de Victor Gestin. J'ai interviewé Victor Gestin en direct à Faites-Lire grâce à la FRAMA, la Fédération régionale des radios associatives Maine-Anjou. Bonjour Victor Gestin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur très remarqué de La Chaleur. Donc, dès votre premier livre, vous avez été très remarqué. Et De l'homme qui danse, tous les deux publiés chez Flammarion. Je vous reçois aujourd'hui pour La mauvaise joueuse, toujours publiée chez Flammarion. La mauvaise joueuse, c'est l'histoire de Maud, une jeune femme à la vie bien rangée qui provoque un accident et prend la fuite. Le roman débute ainsi. Je n'espérais rien. Et un bowling est apparu. La narratrice est donc Maud. Qui est Maud ?
Maud, je dirais que c'est moi en pire. Elle part de mon propre rapport au jeu. Et quand je dis jeu, c'est tous les jeux. C'est pas seulement les jeux d'argent ou les jeux vidéo, comme on le croit souvent. C'est vraiment tout ce qui peut se jouer. Moi-même, j'ai un rapport intense à ça, qui est un rapport de joie, qui est un rapport collectif, mais qui est aussi un rapport qui a sa noirceur. Parfois, il me semble que je joue pour m'enfuir, que je joue pour me réfugier, pour sortir des règles ordinaires du monde que j'accepte mal. Maud, donc, c'est la version radicale de ce tempérament. On pourrait dire une grande addict au jeu, et ce livre, c'est son portrait, c'est l'histoire de sa rechute dans une vieille addiction et de sa cavale comme ça pendant quelques jours.
Alors, ça s'appelle La mauvaise joueuse. Moi, pour moi, une mauvaise joueuse, c'est quelqu'un qui refuse de perdre. Effectivement, c'est quelqu'un qui refuse de perdre, mais c'est pas vraiment une mauvaise joueuse.
Je trouve cette expression intéressante. Moi, on m'a souvent traité de mauvais joueur, et je me suis demandé ce que ça recouvrait. Il me semble que quand on me traitait de mauvais joueur, c'était pas seulement... On stigmatisait pas seulement le fait que je m'énerve, que je casse ma raquette, que je balance ma manette ou que j'insulte l'arbitre, mais on me reprochait plus généralement cette sorte d'implication extrême, zélée dans le jeu. Cette implication très sérieuse, très grave qu'on peut observer chez certains joueurs, alors que, je sais pas, pendant une partie de pétanque l'été, tout le monde est détendu, tout le monde rigole, et soudain il y a quelqu'un, il y a un individu qui plombe un peu l'ambiance par son sérieux. Moi c'était mon cas, je pense que c'est ça, un mauvais joueur, et c'est toute l'ambiguïté, parce que moi j'avais envie de dire, mais je suis pas un mauvais joueur, je suis juste un joueur, un vrai joueur. C'est quelqu'un qui s'implique outre mesure dans le jeu, et qui atteste par là sans doute de son malaise ou de son rejet du monde ordinaire. D'accord. C'est ça qui m'intéresse.
Ouais. Ok. Moi, là, c'est vraiment quelqu'un qui... Oui, elle est vraiment mauvaise joueuse dans le sens où moi, je le croyais, c'est-à-dire... Mais vraiment, là, elle s'implique trop, en fait. C'est ce que vous dites. Elle casse l'ambiance, c'est ce que vous venez de dire.
Oui, tout son désir, toute sa vitalité, elle la place un peu comme on dirait à côté, quoi, à côté de la plaque, dans ces espaces alternatifs et qu'on pourrait croire symboliques, fictifs, que sont les espaces du jeu. Mais moi, je trouve ça très beau, quelqu'un qui est capable de mettre toute sa vie, je sais pas, par exemple, sur un court de tennis, sur un échiquier ou sur un terrain de foot. Il y a quelque chose de très puissant. C'est l'idée d'aller au bout de son geste et en même temps, encore une fois, c'est une sorte de marginalité et de solitude. Et je pense qu'on a besoin des règles du jeu comme alternative aux règles ordinaires, c'est-à-dire à la loi, à la morale, aux règles sociales, aux normes, etc. C'est ça que rejette en masse ce personnage de joueuse.
D'accord. C'est votre troisième roman. C'est le troisième personnage qui est comme ça, qui va jusqu'au bout de certaines choses, qui est, je dirais, presque jusqu'au boutiste. Mais jusqu'à présent, c'était des hommes. Et vous venez de dire... Que Maud, c'était vous. Alors, pourquoi est-ce que c'est une femme ? Je me suis posé la question.
Oui, alors, c'est une question que je me suis posée moi aussi. Dans le travail, au début, c'était un homme, c'était un mauvais joueur. Et il m'a semblé que je pourrais creuser plus précisément mon sujet avec une joueuse. En l'occurrence, une composante importante du livre, c'est la honte, la culpabilité qu'un adulte peut éprouver dans son amour du jeu excessif. Vous voyez, un adulte qui adore jouer, qui passe ses journées au baby-foot ou je ne sais pas où, c'est bizarre, c'est suspect. Et ça, je l'ai ressenti. Mais je pense qu'une joueuse, qu'une femme, est d'autant plus, encore plus exposée au jugement. Voilà, moi, je l'ai observé dès la cour du collège que mes amis IE, mes amis joueuses, s'en prenaient plein la tronche. Parce que d'elle, en tant que femme, on attendait plus vite qu'elle sorte de l'enfance, qu'elle s'arrête de jouer, qu'elle s'arrête de courir. Et donc, pour explorer ce sentiment qui m'est propre, je me suis décalé dans un personnage de femme. Mais elle me ressemble, et c'est sans doute même de mes trois personnages, celle qui me ressemble le plus.
Ah oui, c'est intéressant. Parce qu'effectivement, ça commence par le bowling. Et c'est vrai qu'on l'associe quand même, le bowling, à un jeu quand même assez masculin où il y a... Et effectivement, elle est remarquée aussi parce qu'elle est une femme.
Oui. En fait, bon, elle traverse globalement beaucoup de décors. Mmh. C'est un livre de cavale et d'errance où elle passe d'un lieu à l'autre et d'un jeu à l'autre. Et elle traverse beaucoup de lieux très masculins. Un PMU où on joue aux fléchettes, un bar où on joue aux échecs, un terrain de foot. Et on la regarde beaucoup, on la juge. Et ce qui m'intéresse aussi, c'était que nous, lecteurs, lectrices aussi, on puisse peut-être être tenté de la juger, de mal la regarder, de la trouver un peu bizarre quand même, cette joueuse. Et voilà qui questionne notre rapport au jeu aussi, notre tolérance et nos a priori et tout ça. Donc je pense que c'est d'autant plus, ça nous met d'autant plus au travail d'être face à une joueuse, en fait.
Oui, alors, le fait qu'on est dans son intériorité, dans sa pensée, moi, je ne l'ai pas jugée, justement. Et j'ai trouvé que votre écriture ne la jugeait pas. Parce que elle se juge en fait en permanence malgré tout. Enfin, puisque elle a craqué quoi.
Oui, c'est intéressant. Je pense la grande erreur. Enfin, il faut pas juger ces personnages quand on écrit. Je pense qu'il faut pas trop juger les gens de façon générale. C'est mieux d'essayer de comprendre. Mais par contre, un personnage qui se juge lui-même, là, je trouve ça bien. Oui. Ça, je trouve ça intéressant parce que ça raconte plein de trucs de sa culpabilité, de son malaise. Je trouve que c'est drôle aussi, quelqu'un qui se regarde faire et qui s'en veut. Moi, je suis d'un tempérament très coupable et je trouve qu'il y a quelque chose de grave là-dedans, mais aussi d'assez comique. Et en effet, moi, je la juge pas, mais elle se juge beaucoup.
Alors, votre livre, justement, il commence après le craquage de Maud et puis ensuite, ça remonte le temps pour revenir au jeu hein, qui l'a fait craquer. Pourquoi avoir choisi cette construction narrative ?
Oui, bah alors, avant que soit relaté son accident de voiture et le point initial de cette cavale, en effet, on l'apprend dans un moment où elle débarque dans un bowling et on l'apprend avec un certain retard. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi elle est là, on ne la connaît pas. Et moi, je voulais commencer par... comment dire, par elle dans son habitat naturel, quoi. C'est-à-dire elle dans un lieu, voilà, elle qui découvre un bowling, qui rentre dedans, et qui dès la première phrase le trouve beau, le trouve désirable. Et c'est là l'espèce de renversement moral relatif hein, de ce livre, c'est de, dans cette zone-là, dans ce temps-là, et avec cette narratrice, eh ben, le bowling sera beau. Et le Buffalo Grill sur le bord de l'autoroute, que moi j'ai toujours trouvé très beau du reste, sera beau, sera désirable et sera décrit comme on décrirait, je sais pas, une montagne ou un palace. Vous voyez, j'ai fait ça pour la voir dans son habitat et dans sa situation la plus brute, elle qui joue au bowling. D'ailleurs, une des premières sensations de ce livre, moi j'aime bien les sensations, les sens, les faire rentrer dans le texte, c'est elle qui renifle comme un animal un peu dans une chaussure de bowling. Vous voyez cette odeur ? Moi, qui est une odeur qui me réjouit, qui est l'odeur de l'anniversaire avec les amis, qui est l'odeur de patinoire, mais en vrai, qui est une odeur de vieilles chaussettes, quoi. Ça pue.
Oui.
Mais elle est séduite par ça. Et nous, le temps d'un livre, on va, en tout cas, être entraîné avec elle et peut-être aussi séduit par ça avec elle.
Alors, est-ce qu'on peut dire que votre œuvre, elle s'intéresse à celles et ceux qui craquent ou qui dévissent et aussi à ceux qui souffrent de maladies, je dirais, invisibles, dans le sens où vos personnages sont d'apparence lisse, mais à l'intérieur, ils sont ils sont abîmés, quoi.
Oui, alors deux choses. D'abord, les personnages qui ont l'air d'être des anges ou d'être calmes et qui, en fait, ont des fêlures, ça m'intéresse parce que moi, je pense que j'ai un peu cette tronche-là. J'ai un peu la tête. Souvent, on me trouve jeune, on me trouve calme, on me trouve doux. Et en fait, moi, je sais que c'est pas entièrement vrai. Donc ça, je me sens proche de cela. Et pour le reste, je pense que si on veut raconter les défaillances de notre... de nos constructions communes, quoi, de la société, disons, c'est bien de s'intéresser aux gens cassés. Si on s'intéresse aux gens inadaptés, ça me semble être la meilleure façon de questionner en fait nos propres problèmes en tant que société, parce que si quelqu'un se sent pas bien, c'est pas sa faute. A priori, c'est pas sa faute, il y a quelque chose de plus grand qu'elle, une structure, un lieu, une hiérarchie, des normes, et voilà. Donc prendre des gens cassés, prendre des perdants, prendre des ratés, tout ce qu'on veut, c'est une façon de questionner aussi notre responsabilité collective. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on a tous décidé que le jeu allait en grande majorité quitter nos vies une fois l'enfance achevée? Pourquoi on lui a pas fait toute la place, toute la belle place qu'il avait pendant l'enfance? Voilà, ça c'est une question du livre.
Oui, et vous pensez que c'est pour ça que ça devient quelque chose de dangereux pour le personnage? Le fait que ça soit interdit à l'âge adulte?
Oui, oui, ça me fait penser à la phrase qu'écrit le personnage dans Shining en boucle sur sa machine à écrire. Que du travail et pas de jeu me rendent fou, quelque chose comme ça. Oui, je pense que le jeu, c'est un puissant espace de catharsis, évidemment, et que privé de cela, on peut vriller, ouais. On peut se mettre à jouer d'une mauvaise façon. Ce livre, c'est aussi ça, c'est aussi la mauvaise joueuse, c'est aussi quelqu'un qui joue et qui, assouvit sa pulsion ludique d'une façon un peu compliquée, violente, perverse, trop réelle, voilà, qui sort un peu du terrain, du plateau, des cartes pour jouer avec tout et rien, et tout et son contraire. Jouer avec sa propre vie, quoi.
D'accord, ben on va s'arrêter sur ces mots-là. Merci beaucoup. Je recommande vraiment à tout le monde La Mauvaise Joueuse. C'est à la fois un thriller et un moyen de réfléchir à sa propre addiction au jeu, parce que je pense qu'on a tous un rapport particulier au jeu, en vérité. Merci beaucoup.
Merci.
Lecture de L'Incipit de La Mauvaise Joueuse. Citation en exergue. L'enfant qui joue habite une ère qu'il quitte avec difficulté. Donald Winnicott, Jeu et réalité. Je n'espérais rien, et un bowling est apparu. J'ai su que c'était un bon bowling. Je l'ai su à la façon dont « bowling » était écrit en lettres violets néon. Ça ne clignotait pas. Les mauvais bowlings clignotent, ils aguichent. Celui-ci ne cherchait pas à plaire, il était tranquille, souverain dans la nuit, au bord de la nationale. Les voitures passaient devant en sifflant sur le bitume mouillé, et chacune semblait rater sa chance, foncer vers sa perte. J'ai eu envie. Sans doute aurais-je résisté si je m'étais trouvé moi aussi en voiture. Avec la vitesse, je n'aurais senti qu'une brève tentation vite oubliée. Seulement j'étais à pied, dans un champ. J'ai enjambé le fossé, de la boue a giclé sur mes bottines. Au bord de la route, j'ai attendu pour traverser. Les voitures fusaient, je pensais à ma silhouette dans leur phare. On devait me prendre un instant pour une bête. Une biche ou un chevreuil. Un instinct de bête me poussait d'ailleurs à me jeter sans attendre au hasard. Au premier silence, j'ai couru. Au-dessus de ma tête, un panneau immense indiquait « Saint-Nazaire à 15 km ». Le vent était froid, il pleuvait, c'était un mardi soir, en novembre. J'ai atteint l'autre côté, longé la barrière jusqu'au parking. Je devais être la première à venir ici à pied. J'en ai conçu une petite intimité avec la zone, comme un paysage mérité au bout d'une longue promenade. Devant moi se dressait un grand hangar en tôle, un hangar laid, transfiguré d'un coup de néon. En faisant le tour du bâtiment, j'ai découvert ce que la perspective m'avait caché. Un Buffalo Grill, un hôtel Formule 1, un karting et un laser game, tout un archipel. Il fallait choisir. J'ai commencé par le bowling. J'ai franchi la porte et traversé un tunnel. Je n'entendais pas de musique. Signe de bon goût, rien que le bruit des boules et des quilles et quelques lointains éclats de rire, de joie ou de rage. J'ai débouché sur une grande salle noire et violette, chauffée. 10 pistes se déployaient à intervalles harmonieux. Il y avait un billard, un bar lounge et une zone d'arcade en contrebas. Tout était lisse. Le sol, les murs, la peau des gens. Tout le monde avait le même bracelet fluo. J'en ai voulu un aussi. Je me suis approchée des pistes. Je l'ai fait calmement, sans courir. Pourtant, des gens me regardaient. Ce devait être à cause de la boue ou de mes cheveux trempés. Ou d'autres choses encore. Je suis allée vérifier aux toilettes. J'étais normale. Une trentenaire peut-être un peu fatiguée, venue faire un bowling en oubliant son parapluie. Mon grand corps gauche, mes taches de rousseur et mes yeux ronds me donnaient l'air gentil. j'ai passé mon manteau sous le sèche-main. Tant qu'on ne me voyait pas, j'ai fait la même chose avec mes cheveux, puis avec mon jean qui me collait aux cuisses. J'ai nettoyé mes bottines. Un instant devant le miroir, je me suis demandé ce que je faisais là, puis je suis retournée dans la salle. Je me suis assise au bar et tournée vers les pistes, disponibles, afin que l'on me propose une partie. Personne n'y a pensé. Ça ne se faisait pas. Les gens se rendaient au bowling en groupe déjà constitué. Tous étaient au complet. C'étaient des familles, des amis, des collègues, en team building. La plupart ne savaient pas jouer. J'en voyais qui tenaient la boule dans le mauvais sens, d'autres qui ne prenaient pas d'élan, d'autres encore semblaient contents de rater. Ils lançaient leur boule dans la gouttière et riaient. Les regarder m'irritait comme s'ils piochaient dans mon temps de jeu ou dans mon temps de vie. Au comptoir, trois hommes s'inscrivaient pour une partie. Ils avaient mon âge et j'aurais parié qu'ils travaillaient dans l'immobilier ou la banque. Ils se déchaussaient. En échange, on leur rendait ces chaussures rouges et bleues qui donnent envie de faire des glissades. J'ai tenté. « Bonsoir, est-ce que ça vous embêterait que je joue avec vous ?» J'avais trouvé le ton juste, poli, digne, détaché. Ils ont tout de même paru surpris, alors j'ai ajouté. « J'attendais des amis, mais ils ont annulé. » Ils m'ont souri. « C'est pas des vrais amis, alors ?» « Viens avec nous, bien sûr, on va pas te laisser toute seule. »« T'es pas trop forte, j'espère ?» a demandé un autre. « Je me débrouille. »« C'est quoi ton nom ?»« On va te rajouter. » »« Kelly. » C'est ce qui m'est venu spontanément, le nom d'une joueuse américaine, Kelly Kulik. J'ai payé ma part. On m'a mis le bracelet, donné les chaussures. Au moment de les enfiler discrètement, j'ai reniflé dedans pour m'en rappeler l'odeur intense, odeur de chaussettes, de patinoire, d'anniversaire avec les copains. Ça m'a ému. Ça faisait longtemps, au moins 10 ans. 10 ans sans bowling. Nous nous sommes installés piste 7. Les noms se sont affichés sur l'écran. J'étais la première. J'affrontais Benoît, Alban et Eddy. Ils me regardaient. Ils ne savaient pas quoi me dire. « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» a essayé l'un d'eux. J'ai répondu sans réfléchir. « Si ça ne vous gêne pas, je préfère éviter de parler quand c'est mon tour, sinon je risque de me déconcentrer. »« Ah, d'accord. » J'ai rougi. La phrase était sortie trop fort. Je dosais mal ces choses. Ils ont échangé un sourire que j'ai tâché d'ignorer. J'ai posé mon manteau. Mon pull me grattait. J'avais chaud. J'ai étudié les boules sur le rail. J'ai choisi une 11. J'en ai fait le tour de la main, j'y ai placé mes doigts. Mon corps a trouvé son équilibre. Il m'a semblé que tous mes gestes devenaient justifiés, que plus rien ne dépassait. Confiante, je me suis avancée dans cette zone d'élan où le sol est encore plus lisse. J'ai fait mes 3 pas. J'ai armé mon bras. Ma main s'est mise à trembler. Surprise, j'ai lancé et la boule est partie de travers dans la gouttière. Sur l'écran, une mascotte en forme de quille a éclaté en sanglots. Au bowling, il faut savoir rester de bonne humeur après un mauvais lancer, ce qui implique surtout de se retourner correctement vers les autres. Je les ai regardés avec un sourire amusé, les pommettes douloureuses, crispées par l'effort. « Raté !» ai-je dit la voix un peu haute. « C'est pas grave, tu peux encore faire un spare !» J'ai passé ma main devant la ventilation, c'était normal, c'était la reprise, tout le monde se ratait à la reprise. La boule est remontée, je l'ai saisie naturellement sans trop réfléchir. Je me suis élancée mais ma main s'est remise à trembler et la boule est repartie dans la gouttière. Je me suis retournée encore en souriant, le visage me tirait. Mince alors, décidément. T'inquiète pas, on est nuls aussi. Je me suis assise. Les autres ont joué, assez mal, mais ils marquaient des points, ils prenaient de l'avance. Le bras le long de ma jambe, discrètement, j'ai répété mon geste, entre souplesse et fermeté. Je les ai vus chuchoter et se retenir de rire. Je me retenais aussi. Je ne savais pas bien de quoi, mais je me retenais fort. Mon tour est revenu. J'ai changé pour une boule 12, plus lourde, qui stabiliserait ma main. J'ai fixé la piste. Un peu de sueur me piquait la peau. Mon cœur tapait contre mes côtes. Une petite odeur de drame soufflait dans l'air. J'ai pris mon élan et j'ai lancé. Dans la gouttière. La machine a soulevé les quilles. Un instant, le fond de la piste s'est ouvert sur le vide. Je suis restée au bord. Je me retenais toujours. Ce n'était pas grave, je le savais. Soudain pourtant, j'ai cessé de le savoir. « Mais putain !» Mon cri a résonné, tout le monde me regardait. « Ça va pas ? Faut se calmer, c'est qu'un jeu !» J'ai eu l'idée de donner un coup de pied quelque part, peut-être dans le rail ou dans une chaise. L'envie est montée, fulgurante, comme monte la douleur dans un orteil cogné contre un meuble. Je me suis approchée du rail, une comète lucide est passée dans mon cerveau. « Attends, je l'ai saisie et je me suis rassise calmement. » Désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris. Victor Gestin a écrit sur mon livre « Pour Sandrine, joie de te retrouver et tes questions et ta si sincère curiosité. À bientôt et merci. Victor. » C'était ma rencontre avec la mauvaise joueuse de Victor Gestin.